La chronique de Pierre-Yves McSween est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier.
C'est 23.
Voici la chronique économique de Pierre-Yves McSween.
Alors, deux sujets bien sûr ce matin. Le premier, le titre est le suivant, la complexité fiscale de données, c'est une décision de la Cour suprême qui concerne l'actionnaire de contrôle de la chaîne Bro et Martineau.
Oui, et l'article est un peu défavorable dans l'image. L'homme, en tant que tel, ce qu'il a fait, c'est qu'il a donné près de 3 millions de valeurs d'options d'achat d'actions en 2010-2011. Puis lui, il a dit, garde, j'ai donné les options d'achat d'actions. Je demande l'avantage fiscal, mais je ne m'impose pas sur la valeur de ce que j'ai donné. Donc, il voulait avoir un peu le beurre puis l'argent du beurre, puis là, c'est un peu critiqué par des spécialistes en fiscalité dans le journal. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est épouvantable parce que je vais te faire un parallèle.
Mais là, je suis pas sûr que je comprends.
En gros, une option d'achat d'action, là, c'est que tu as le droit d'acheter une action à un prix déterminé. Puis quand la valeur de l'action est plus élevée que ce prix-là en bourse, tu as un gain latent, hein, tu as une valeur. Mettons, tu peux acheter une action 10$, l'action vaut 20$ en bourse.
Je fais 10$.
T'as 10$ par droit d'option, tu sais, par option d'achat d'action. Et donc, ça, un moment donné, si t'en as beaucoup, ça finit par valoir cher. Puis là, tu te dis, hey, moi, je vais donner mes droits à un organisme de bienfaisance. Puis j'en ai pour 3 millions de dollars, donc je vais donner 3 millions de valeurs à un organisme de bienfaisance ou à des organismes ici, dans le cas présent. Et dans le fond, tu te dis, ben moi, au lieu de le garder pour moi, l'avantage, je vais le donner. Mais je vais demander un crédit d'impôt pour l'avantage que j'ai donné. Puis là, le fisc dit, puis la cour entérine, c'est de dire, ben écoutez, si t'as donné un avantage, c'est correct. Mais dans la vie, il faut que tu t'imposes sur un revenu avant de pouvoir bénéficier d'un crédit d'impôt. Sans entrer dans la complexité, disons que c'est un peu étiré. Mais je peux comprendre le réflexe de l'actionnaire. Parce que, par exemple, Paul, si je donne des actions que je possède déjà, là, pas des options, là, des actions, puis qu'il y a un gain sur les actions, ben je suis pas imposé sur le gain si je les donne à un organisme de charité, puis j'ai droit au crédit d'impôt. Donc, tu sais, des fois, il y a des mauvais parallèles qui se font, mais je te donne un exemple. J'ai acheté des actions à 1 000$, ils valent 5 000$, je les donne à la Fondation de Sainte-Justine, ben j'aurais pas besoin de m'imposer sur le gain en capital de mes actions si je donne les actions, puis je vais avoir en plus l'avantage imposable. Ça va me coûter de quoi au net, parce que je vais leur donner une grande valeur par rapport à ce que j'ai dans les mains. Mais quand même, ce que je veux dire ici ce matin, c'est que c'est complexe, les dons d'actions. Les options d'achat d'actions, il faut que tu les exerces avant de donner, sinon il faut que tu fasses certains calculs. Mais ici, c'est de dire on s'est battu contre la loi de l'impôt. Et
en tout cas, la Cour suprême a trouvé ça bien clair.
Oui, hein? La Cour suprême dit clair, elle dit regardez, là, tu as de l'impôt à payer avant de profiter d'un crédit d'impôt. Puis c'est tout, mais dans certaines circonstances, sachez-le, si vous voulez faire un don pour Noël, donner des actions où il y a un gain latent, puis c'est pas dans votre REER, pas dans votre CELI, mais à l'extérieur, là, le gain en capital n'est pas imposable, donc vous pouvez faire un plus gros don que vous auriez fait autrement.
Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves McSween.
Là, la presse met en lumière une pratique chez Costco, disons, pour faire vendre des cartes. Puis, en tout cas, c'est une drôle d'approche.
Ben, c'est une approche un peu drôle. C'est Maria Fournier qui souligne ça. C'est dans le fond, elle suit des groupes Facebook et il y a un groupe qui est les accros du Costco. Hein, et quand tu peux jamais parler contre Costco dans la vie, tu le sais pas, là, les gens aiment ça. Et là, on dit, regarde, t'arrives chez Costco, puis demander quelqu'un t'approche en disant, il y a un problème avec ta carte de membre. Ah ouais, ouais. Puis là, ils veulent te vendre après ça soit des cartes de crédit ou soit mettre pression pour tomber au niveau exécutif. Dans le fond, il n'y a pas de problème avec ta carte de membre. C'est qu'on veut te vendre des services. Alors, c'est une forme de subterfuge de vente à pression. Ma question ce matin, est-ce que c'est un sous-traitant de Costco? Est-ce que c'est une stratégie de Costco ou des employés de Costco qui ont pris une initiative qui, disons, pas très, très honnête pour approcher les gens puis leur vendre quelque chose? Mais faut comprendre ce qui se passe aussi chez Costco présentement. T'avais avant Capital One. Puis Capital One a été changé pour CIBC dans le partenariat de cartes de crédit. Donc là, il y a une grande pression de vendre des cartes de crédit, évidemment, CIBC, Costco. Puis les cartes de membres, ben c'est sûr que Costco fait son argent avec les cartes de membres. Bien que les gens soient vraiment contre souvent que je parle de ça, c'est que c'est très payant pour Costco que vous soyez membre. Même si vous dites, ouais, mais je me refais, il me renvoie de l'argent. Oui, quand même, mais pour Costco, une partie de la marge de profit, c'est l'achat d'avance de la carte de membre. Et le renouvellement est important. Et donc, c'est sûr que si vous regardez les états financiers de Costco, vous allez voir que la marge nette de Costco est vraiment pas grande. Sur 6 mois, là, c'est 2,6 %. Mais sur 100 milliards de ventes, 102 milliards de ventes, vous avez 2,6 milliards de bénéfices nets. Puis là-dessus, vous allez voir, là, vous avez près de 2 milliards de ventes de cartes de membres. Ce qui veut dire, c'est que la marge de Costco est grandement financée, si on fait une petite règle rapide, par le membership. Puis tout le reste, on fait très peu de marge sur les ventes. D'ailleurs, quand vous achetez pour 100$ chez Costco, ça a coûté 89$ à Costco. Puis là, il faut couvrir les autres frais. Donc, c'est vraiment... La stratégie de Costco, c'est de garder ses membres, de leur vendre une carte exécutive. D'ailleurs, je l'ai même vécu. Il y a une stratégie très, très gagnante chez Costco. T'arrives avec ta carte de membre régulier que j'avais à l'époque, régulière. Puis là, on te dit, hein, t'as la carte de membre régulière à 60$, ça a été un des rares parce que les autres, là, sont tous exécutifs pas mal, hein. Vous êtes un des rares à avoir la carte de base. Donc, fond, hey, là, vous perdez vraiment des avantages. Donc, on te fait sentir ordinaire. Puis dire, regarde toutes les autres, ils ont la carte exécutive. Qu'est-ce que tu fais avec la carte régulière pour essayer de te vendre la carte supérieure? Ou on va te vendre la stratégie différentielle. On va te dire, hey, tu vas avoir 2% sur tes achats si jamais ta carte préférentielle, le privilège, le membership hot, là, excuse-moi, donc t'es bien mieux de prendre l'exécutif, là. Mais là, tu fais des calculs comptables, tu te dis, OK, mais faut que je dépense au moins 3 000 par année chez Costco,
là. Moi, ce que j'haïs, là, c'est la pression. Puis ce qui est décrit, là, ce que tu viens de résumer, c'est de la pression. Tu sais, si on m'intercepte en prétextant que j'ai un problème alors que j'en ai pas, puis qu'on profite du fait qu'on m'amène pour régler le problème, pour me vendre un produit ou pour bonifier le produit, moi, j'ai un problème avec ça.
Mais c'est de la fausse représentation, vous êtes d'accord?
Mazan. Puis l'autre affaire, tu sais, c'est comme au téléphone. Mm-hmm. Tu sais, puis on t'engueule quasiment parce qu'on veut pas écouter le baratin de la personne qui veut nous vendre un gugus, là.
Ben, c'est comme au téléphone quand on vous appelle, là. Je nomme pas de compagnie. Êtes-vous satisfait des services? Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous aujourd'hui? Hey, justement, je voulais t'en parler. J'ai un problème avec telle affaire. Je trouve que ça me coûte cher. Ah ouais, moi, je suis plus là pour vous offrir des nouveaux services que pour couper votre facture. Ben oui. Puis quand t'arrives dans les magasins ou dans le métro ou n'importe où, puis qu'on t'offre des cadeaux pour que t'adhères à la carte de crédit, c'est quand même spécial. Là. C'est un produit financier, tu dois y réfléchir. Mais on réussit à avoir des ventes en donnant des serviettes du Canadien, en donnant des cartes de cadeaux, en disant, si t'achètes aujourd'hui dans le magasin, t'as 10% sur tous tes achats. Et ça, c'est un coût d'acquisition de clientèle qu'on dit. Ouais. On paye quelque chose pour ça, mais c'est vraiment fatigant de rentrer dans un magasin, tu vas acheter du papier de toilette, puis t'es tout le temps en train de te faire dire, bonjour monsieur, ça va bien, voulez-vous la carte de crédit? Non, je veux du papier derrière, tu comprends? Et ça, effectivement, ça devient une pression très importante. Mais faut comprendre que Costco, présentement, veut vraiment un renouvellement de ses membres, puis veut vraiment aussi, avec son nouveau partenaire, vendre des cartes de crédit pour que les gens achètent la carte de crédit avec laquelle le magasin a un partenariat.
Merci, monsieur.
Salut.
Salut. Money.
C'est 23.